Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou par le canal de 52 radio et 7 télévisions à travers le Niger. À Zender, vous écoutez cette émission sur les ondes des radios Gaskia 89.5 MHz et Chukura sur 105.5 MHz. Aujourd'hui, le thème du forum est l'éducation des enfants handicapés, visuels et auditifs à Zender, défis et perspectives. L'ordonnance 93/012 du 2 mars 1993 affirme le droit des enfants et adolescents handicapés à l'éducation qui doit être intégrée au système éducatif national, article numéro 7. C'est appréciable aux personnes ne peuvent leur refuser l'accès. Est-ce que le programme en vigueur est adapté à ce type de personnes? Quelles sont les difficultés qui entravent le bon déroulement de leur apprentissage? Quelles perspectives existent-ils en termes d'amélioration et d'issue après les études des non-voyants? Pour discuter, nous recevons M. Liman Tingiri Mustapha, planificateur de l'éducation à la retraite, Mme Abdou Fassouma, directrice de l'école des sourds de Zender, et Mme Eti Kokon Catherine, responsable salle de transcription Braille Zender. Nous avons invité aussi M. Habou Moukela, enseignant des élèves handicapés du secondaire, qui est au niveau du CS Barman Mustapha, nous apprend au dernier moment qu'il était empêché. On aurait dû savoir avec lui comment les enfants handicapés arrivent-ils à s'intégrer dans le cadre de l'inclusion. Est-ce qu'ils se maintiennent à l'école ou bien est-ce que le programme en vigueur est aussi adapté à ces types d'enfants handicapés? On aurait dû aussi savoir avec lui quels sont les impacts du manque de professionnalisation des enseignants sur la formation des enfants en situation de handicap ou encore ce qui entrave le bon déroulement des enseignements au niveau du CS Barma Mustapha de Zender. Ce n'est qu'une partie remise. Nous allons donc faire le débat malheureusement sans lui.
Je suis Mustapha Mamansani, correspondant du studio Kalangou à Zender pour l'animation de cette émission. À Zender, des classes intégratrices ont été créées en 2000. À partir du CE2, les élèves ayant un handicap visuel sont intégrés dans les classes ordinaires. Les sourds et les enfants malentendants suivent les cours au niveau des écoles primaires, secondaires et l'école normale. Nous commençons par vous, Monsieur Liman Tingiri. Vous êtes planificateur à la retraite. Que dit la Lausanne au sujet de l'éducation des personnes handicapées au Niger?
Bien, donc, merci pour la question. Et ce que je veux dire par rapport donc à la Lausanne, qui traite d'un petit paragraphe sur les personnes handicapées, il qualifie cela d'éducation spécialisée. Et cette éducation spécialisée, c'est l'éducation des personnes concernées, la rééducation, leur formation et l'insertion professionnelle. Leur insertion ou leur réinsertion. Et logiquement, ça doit être pris en charge donc totalement. Donc si on prend les quatre formes d'éducation reconnues au Niger, donc il y a l'éducation formelle, il y a l'éducation informelle, non formelle et l'éducation spécialisée. Et l'éducation spécialisée, comme je le disais tout à l'heure, est normalement totalement pris en charge donc par l'État. Si on prend l'éducation par exemple primaire, bien sûr donc les enfants ne payent aucun frais d'inscription, de scolarité ou autre. C'est le cas également pour l'éducation spécialisée. Mais au-delà donc de cela, ils doivent bénéficier de transport à leur lieu donc de travail, entre la maison et le lieu de travail. Ils doivent être pris en charge donc sur le plan médical. Et même donc leur offrir un repas donc à l'école pendant donc la journée.
Tout ça, c'est l'État.
Oui, logiquement donc c'est ce qui est inscrit, donc l'État doit vraiment en prendre donc en charge totalement cela. Donc c'est à peu près donc ce qui est dit au niveau donc de la Lausanne sur donc l'enseignement spécialisé, l'enseignement donc des personnes handicapées.
Madame la directrice, quelle est l'évolution des effectifs d'enfants handicapés à l'école des sourds de Zender? Vous êtes la directrice de l'école des sourds ici à Zender.
Donc, bien sûr, il y a une très grande évolution. des effectifs d'enfants handicapés à l'école du Sourd. Car l'école a commencé seulement avec 8 élèves en 1981, lorsqu'elle a ouvert ses portes. Mais de nos jours, l'école compte 141 élèves handicapés, dont 58 filles et 83 garçons. Et à part cette école aussi, nous avons la classe intégratrice de Sabongari, qui reçoit aussi des enfants handicapés sourds. Elle a ouvert ses portes en 2012, donc c'est tout récemment. Elle a commencé avec 4 élèves. Et aujourd'hui, l'école compte 78 élèves, dont 48 garçons et 30 filles. Bien. Donc, ces deux écoles reçoivent des enfants handicapés de la ville de Zender, voire même de la région.
Parlant toujours des défis de l'éducation des enfants handicapés visuels et auditifs à Zender, suivons ce directeur d'école en milieu rural.
Je suis un enseignant à l'inspection communale de Dakoussa et je suis un directeur d'une école de la dite commune. À peu près j'ai 17 ans de carrière. J'enseigne toujours en bourse. Au village, on a des enfants handicapés, mais malheureusement, ces enfants ne fréquentent pas l'école parce que les enseignants n'ont pas eu une formation appropriée pour prendre les enfants handicapés en charge. Puisque éduquer un enfant handicapé, ça demande une formation appropriée, puisqu'il n'est pas égal aux autres élèves qui ne sont pas handicapés. S'agissant des enfants sourds et aveugles, les parents ne songent même pas à les inscrire. Pourquoi? C'est les enfants un peu aguerris mentaux. Ce sont eux que les parents inscrivent. Mais quand, en cours de route, quand l'enseignant remarque que ses élèves sont des aguerris mentaux, donc il ne peut pas les tenir, puisqu'il n'a pas une formation appropriée pour les prendre en charge. Et surtout, il ne peut pas les associer avec les autres élèves. Donc, il est obligé de les renvoyer à la maison. Et nous, on le sait très bien. Ces enfants ont le droit à l'éducation. Mais compte tenu du manque de moyens, on ne peut pas les garantir ces droits-là. Donc c'est ça qui nous freine un peu pour les mettre dans leurs droits. Il y a un besoin qui se sent, surtout même si c'est une seule école dans la commune, dans le chapelet de la commune, là où les autres villages vont envoyer leurs enfants handicapés. Parce que c'est leur droit. Et aussi les enfants, quand ils voient leurs camarades partir à l'école, ils se sentent gênés aussi. Mais une fois qu'il y a une école appropriée à ça, donc on peut les envoyer, même si c'est dans la commune, les interner. Donc, fin de la semaine, ils peuvent partir chez eux, faire le week-end. Quand tu n'as pas une bonne formation, tu ne peux pas les associer. Parce que tu ne sais même pas comment on peut les gérer. Mais si tu as une formation, tu peux les gérer en les occupant, en même temps qu'avec les autres élèves qui ne sont pas handicapés.
Est-ce que vous avez, par exemple, rencontré des enfants handicapés qui aiment venir à l'école ou qui viennent volontairement à l'école, même sans être inscrits?
Oui, il y a des enfants qui viennent, mais vous savez, l'enfant lui-même, quand il constate que ce milieu-là, ce n'est pas, il est seul, par exemple, dans le milieu, donc il devient un peu réticent et finalement, il finit par céder lui-même. Quand l'État décide de le faire, moi, je crois que ça peut être exécuté parce que s'il est à l'école, donc, avec un peu de sensibilisation, les parents vont amener leurs enfants. Donc, ces enfants-là vont être dans leur droit. Donc, c'est l'État qui doit faire l'effort, qui doit trouver les voies et les moyens pour au moins former les enseignants. Donc, prendre ce qu'on peut prendre en charge. Ensuite, songer à construire, même si c'est une école dans chaque commune, qui prend les enfants handicapés en charge.
D'accord. Madame, est-ce que les écoles spécialisées sont nombreuses ici au Niger?
Non, elles ne sont pas du tout nombreuses. Il y a seulement 4 écoles spécialisées. Il y a l'école Soli Abdrahman de Niamey qui reçoit les aveugles, les malvoyants. Il y a l'école des sourds de Niamey qui a été créée en 1980. Et ensuite viennent celles de Zender et Maradi. En 1981, il y a seulement 4 écoles spécialisées.
Partout. Dans toutes les régions, il n'y a que ces quatre.
Oui, il n'y a que ces 4.
Alors, ça veut dire que ici à Zender, les élèves que vous avez ne sont pas uniquement de la ville, de la région de Zender?
Si. Dans d'autres régions, on a créé les classes intégratrices.
Ah, d'accord.
Oui, comme Difa, Tawa et dans les autres régions
c'est
aussi.
C'est ça, c'est ça.
Oui. Mais pour les écoles spécialisées, c'est uniquement Zender Maradi Niami. Voilà.
Madame Catherine Etiko, quand vous êtes responsable de la salle de transcription du Braille Zender, comment se font les transcriptions des sujets d'évaluation et même les corrections à votre niveau?
D'abord, on nous donne le texte ou bien le devoir des élèves voyants. Mm-hmm. Maintenant, on nous donne ça, on fait la saisie mm-hmm. d'abord mm-hmm. et on renvoie à la machine imprimante pour sortir le texte en Braille.
Pour toutes les matières?
Oui, pour toutes les matières.
Et la correction?
La correction, ce sont les maîtres qui le font. Quand je transcris mm-hmm. les devoirs, mm-hmm. et maintenant je renvoie au maître des élèves.
Vous faites un double travail. Donc pour le sujet, il faut transcrire.
Oui, il faut transcrire. D'abord, il faut sortir le sujet d'abord. Mm-hmm. Et ensuite, on renvoie le sujet aux élèves pour qu'ils traitent. Mm-hmm. Maintenant, une fois traité, mm-hmm. ils ramènent, je transcris mm-hmm. et je renvoie au maître de la classe pour donner sa note.
Et ça dans toutes les matières.
Oui.
Madame la directrice, est-ce que vous sentez un manque de sensibilisation des parents quant à la nécessité et la possibilité d'éduquer un enfant sourd?
Oui, il y a un manque de sensibilisation des parents, même pour le recrutement. Car jusqu'ici, il y a des parents qui refusent d'inscrire leurs enfants handicapés. Pour eux, l'enfant handicapé ne peut pas suivre le cours comme il se doit. Alors que s'il est bien suivi, il arrive à suivre son cursus scolaire sans problème, comme les autres enfants non handicapés. Donc alors, il y a un manque de sensibilisation, vraiment.
Monsieur Tingri, pensez-vous que le programme en vigueur est aussi adapté aux enfants en situation de handicap?
Bon, c'est difficile à dire, et vu la situation assez particulière donc du Niger sur le plan de l'éducation, je veux dire donc en général, est-ce que donc ce qui est dit est réellement appliqué? Je ne le pense pas, parce que comme la directrice vient de le dire, donc déjà les parents donc ne sont pas totalement donc sensibilisés, et bien sûr donc les frais sont également importants s'il faut les prendre en charge, comme on l'a dit donc totalement. Ça nécessite évidemment donc beaucoup de moyens, et on le voit donc il y a beaucoup de difficultés au niveau donc de l'enseignement. Et même s'il y a très peu donc d'écoles, je pense vraiment que ces écoles donc ne reçoivent pas les moyens nécessaires donc pour faire donc le travail, pour prendre en charge totalement donc ces personnes qui présentent donc des handicaps sur le plan physique, mental ou intellectuel. Et comme elle vient de le dire, donc c'est difficile évidemment donc de les encadrer. Il faut être patient, et pour ça il faut évidemment donc beaucoup de moyens.
Est-ce que le curricula répond à leur handicap, à leurs besoins?
Bon, je pense que sur ce plan donc général là, donc il n'y a logiquement pas de problème. On sait donc les déficiences qu'ils ont. Et on sait donc, sur le plan donc théorique, comment les suivre, les encadrer. Et bien entendu, donc il y a une convention générale au niveau donc mondial pour évidemment donc l'enseignement, pour les protéger, pour les suivre. Donc sur ce plan, je pense qu'il n'y a pas de problème. Peut-être, je ne sais pas si on a recruté totalement donc les cadres, les enseignants qui peuvent peut-être les mettre en formation. C'est peut-être ça aussi peut-être des problèmes. Parce que si on prend donc même l'enseignement général, donc vous voyez là, une bonne partie c'est des contractuels et autres. Et l'enseignement spécialisé nécessite évidemment donc des cadres formés qui peuvent totalement donc les suivre. Maintenant, est-ce que réellement donc ils ont donc les enseignants qui doivent pouvoir bien s'occuper donc des enfants? C'est peut-être ça donc le problème.
Cette question, nous allons la reposer à Madame la directrice. Madame, avez-vous suffisamment de moyens d'accueil et de personnel qualifié pour recevoir, par exemple, un grand nombre d'élèves? Aujourd'hui, vous dites que vous avez 141 élèves pour votre école. Est-ce que vous avez les moyens d'accueil suffisants et le personnel également qualifié pour recevoir un grand nombre d'enfants?
Non, pas du tout. Non. Et il y a le problème d'infrastructure. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas assez de salles de classe. Mm-hmm. Ensuite, nous avons aussi les enseignants. Mm-hmm. qui n'ont pas été formés, soit en langue des signes ou bien en braille, si on revient du côté des déficients visuels. Donc, il y a l'inaccessibilité des salles de classe. C'est en général que je donne ça. Quand nous prenons l'inaccessibilité des salles de classe au niveau des handicapés locomoteurs, donc il faut nécessairement des rampes. Oui, les toilettes aussi sont inaccessibles. Le tableau aussi n'est pas à leur portée. Tout ça, ce sont des problèmes.
Mais alors, donc, l'école, c'est comme une école des enfants ordinaires, alors, puisque s'il n'y a pas de rampe, si les toilettes ne sont pas adaptées, ça veut dire que...
En tout cas, on n'a pas pris toutes ces mesures.
Vous avez des nombres pléthoriques dans des classes, par exemple?
À notre niveau, je peux dire non. Mais dans les autres écoles, comme à Sabongari, 4 qui reçoit les enfants handicapés, ils ont un effectif pléthorique.
Madame Catherine Etikokan, vous êtes responsable de la salle de transcription du Braille Zender. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans le cadre des transcriptions en Braille?
Bon, les difficultés, ce sont les problèmes du matériel. On n'a pas de matériel assez suffisant pour qu'on puisse bien travailler ou bien avec rapidité. C'est pour cela que le travail est trop lent, puisque il n'y a pas assez de matériel.
Maintenant, vous êtes seule pour plusieurs écoles.
Oui.
Comment vous arrivez à gérer?
Je gère ça comme ça. Si c'est un devoir, quand ils ont un devoir demain, on me donne ça la veille pour faire la saisie, ensuite renvoyer à l'imposteuse pour sortir le bras et ramener à l'école.
Vous avez vous avez suffisamment de machines pour la transcription?
C'est une seule machine en Bosseuse. C'est la seule machine pour toute la région du Zender.
Et si la machine tombe en panne?
On ne le souhaite pas.
Oui.
Oui, on ne le souhaite pas.
Vous êtes bloqué?
Oui, on est bloqué. Si la machine se gâte, on est bloqué.
Mais pourquoi une seule machine pour toute une région?
Parce que la machine, elle coûte très très cher. Elle coûte très cher.
Mais l'éducation aussi doit coûter cher.
Oui.
C'est un droit, non?
Oui.
Monsieur le planificateur, la loi dit, je cite, soit une éducation ordinaire, soit une éducation spécialisée déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux. On parle des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a des établissements spécifiques pour prendre en charge ces besoins spécifiques, puisque la loi a dit de prendre spécifiquement les cas en fonction de l'handicap aussi?
Nous n'avons vraiment pas donc d'établissement qui peut prendre en charge donc totalement donc les personnes handicapées. Et madame vient de vous donner donc la situation. Elle dit qu'il y a seulement 4 écoles donc au Niger. Et bien entendu donc comme nous l'avons dit, il faut assez de moyens et c'est pas facile aussi donc d'encadrer donc ces enfants, surtout sur le plan donc individuel. Et puisque donc ces handicaps là donc sont bien sûr individuels, donc il y en a qu'on peut grouper et d'autres leur donner, comme vous le dites là, donc un enseignement particulier donc à certains enfants, donc ce qui fait que évidemment donc c'est tout à fait donc difficile donc d'assurer cela. Et ça, c'est lié, nous l'avons dit tout à l'heure, aux moyens. Donc c'est vraiment pas facile donc sur le plan vraiment individuel. Ce qu'on peut faire donc et je pense ce qu'on fait au Niger en général donc c'est donc vraiment donc de les grouper donc en fonction des handicaps et donc de leur donner l'enseignement donc qui convient. Donc sur le plan vraiment particulier,
les classes intégratrices là, pas, qu'on dit.
Oui, bon, les classes intégratrices aussi donc là, surtout au niveau donc du secondaire où on les place, ils sont donc avec les autres enfants. Mais à ce niveau-là, il faut aussi donc un suivi donc particulier. Donc au-delà du cours, je pense qu'il faut des heures donc de cours un peu particuliers de soutien pour qu'ils puissent vraiment donc bénéficier de l'enseignement donc totalement et être au même niveau que les autres élèves. Donc c'est les handicaps qui les limitent. Sinon, ils peuvent autant travailler donc que les autres. Donc à cause de certaines incapacités donc ils sont un peu lents à suivre et autres, donc là c'est vraiment ça que je pense. Mais ce n'est pas sur le plan donc de la capacité intellectuelle ou autre, ils peuvent vraiment bien réussir, mais pour quelqu'un qui ne voit pas bien, par exemple, là, déchiffrer ce qui est au tableau, là, même c'est pas facile. Même si on le place à la première table, là, il ne peut pas déchiffrer assez vite. Donc, c'est ça, le problème. Mais ils peuvent réussir autant, évidemment, que les autres.
C'est la faculté intellectuelle.
Mais il faut prendre, donc, le temps. Et ce temps-là, d'enseignement ordinaire, donc, je pense qu'il n'est pas tout à fait suffisant pour eux. Au-delà de cela, il leur faut un peu, donc, de cours particuliers de soutien. Et comme ça, donc, ils peuvent vraiment réussir.
Quelles sont les formations spécifiques pour les personnes handicapées au Niger? Aujourd'hui, nous parlons de l'handicap auditif et visuel. Y a-t-il, dans le cadre de la Lausanne, des formations spécifiques pour ces personnes-là?
C'est vraiment pas détaillé, mais il est dit donc qu'il faut vraiment donc les prendre en charge. Et ça, la prise en charge, là, ça veut dire donc leur protection, c'est-à-dire la non-discrimination. Il faut qu'on les considère comme égaux à toutes les autres personnes, même si donc elles ont des handicaps, elles sont un peu particulières, ces personnes donc sont un peu particulières et autres. Donc c'est sur le plan général, donc c'est ça qui est dit. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, là, donc malheureusement, on n'a pas beaucoup d'écoles spécialisées. Et vraiment, ceux qui sont pris en charge, là, maintenant, c'est les personnes un peu, on va dire, donc malvoyantes. C'est un peu ça qu'on peut dire, quoi, de manière générale.
Quand je prends l'exemple d'un aveugle, est-ce qu'il peut enseigner?
Il peut enseigner. Ici, même à l'hôpital de Zander, nous avons quelqu'un là. Donc là, moi, j'étais un moment en problème donc, de santé, notamment donc, des mal de dos. Et c'est lui, donc là, qui s'occupe de ces personnes. Donc, vous voyez, donc là, c'est au-delà, c'est pas seulement enseigner. Donc, là, enseigner, c'est transmettre un certain nombre donc, de connaissances que vous avez. Et là, vraiment, si vous avez ces connaissances, donc c'est facile.
Mais
au-delà donc, de cela, vous voyez.
On
donc,
peut enseigner quelqu'un qu'on ne voit pas, par exemple, parce que pour enseigner, il faut être en interaction avec les enfants, il faut les voir, tout ça là.
Bon. Ça, c'est peut-être s'il y a des enfants récalcitrants et autres, là, c'est sur le plan discipline. Mais vous savez, maintenant, donc, il y a un certain nombre donc, de dispositifs. On peut installer des caméras et autres. Et maintenant, après le cours, on peut faire visionner un autre responsable pour voir s'il y a vraiment donc, des élèves qui perturbent donc, le cours, qui ne suivent pas ou autre, quoi. Et après, en leur faisant donc, des remarques, là, c'est sûr que ils vont un peu mieux s'améliorer, se tenir plus ou moins correctement. Donc il y a un certain nombre de systèmes, mais je l'ai dit, donc là, l'enseignement, là, c'est de transmettre un certain nombre donc, de valeurs, et c'est tout à fait
possible
donc, pour quelqu'un qui ne voit pas, de dispenser donc, des cours. Et même au niveau supérieur, même à l'université, je sais, donc là, par exemple, on parlait tout à l'heure de Soli Abdelrahman, là, il n'y a rien à faire, là, donc vous voyez, même sur le plan donc, général, là, assez souvent, quand il y a des problèmes juridiques, là, on lui pose des questions et il donne des réponses tout à fait intéressantes.
Lui, c'est un magistrat.
Oui, c'est un magistrat. Donc, vous voyez, même sur le plan donc, politique, là, et ça, c'est un enseignement, on peut le dire. Donc, au-delà de ça, là, il peut encadrer donc, des étudiants en droit tout à fait valablement par rapport à n'importe quelle autre personne. Donc, il a la connaissance et il peut enseigner. Et au-delà de cela, donc, je l'ai dit tout à l'heure pour donc, celui qui est à l'hôpital, là, donc là, c'est. Et il peut palper les corps, il peut donc faire des massages et autres. Là, c'était quelqu'un donc qui était au niveau de la kinésie. Et d'ailleurs, ils sont deux ici à l'hôpital donc de Zender, deux aveugles là qui ne voient pas totalement. Et vraiment, ils arrivent à traiter les gens et les gens sont satisfaits donc de leur service.
Donc pour la formation des enfants en situation de handicap, nous pouvons dire que ils arrivent à obtenir leur diplôme sans problème. Si vous partez à l'école Bernie Garçon, là où on reçoit les malvoyants, vous allez voir des enseignants aveugles qui dispensent leur cours sans problème. Et au niveau aussi de notre école des sourds, il y a également des enseignants sourds qui dispensent leur cours sans problème. Et à part ça, il y a beaucoup de métiers qu'ils arrivent à faire.
C'est ça.
Sans problème.
Madame Catherine, responsable de la salle de transcription du Braille, comment se fait l'intégration des enfants handicapés au niveau du CS Parma Mustapha? Est-ce que les enfants handicapés ont des difficultés à s'intégrer au sein des autres?
Non, ils n'ont pas de difficultés. Parce que dès l'école primaire, ils se sont adaptés. Une fois au collège, ils continuent.
Ils se connaissent, les enfants.
Ils se connaissent. puisqu'ils ont commencé ensemble avec les enfants du normand.
Il n'y a pas de raillerie entre eux?
Non. Ils se respectent même et ils les aident aussi.
Maintenant, est-ce que le braille est intégré dans le système administratif nigérien?
Oui.
Est-il possible aujourd'hui de faire un rapport en braille?
Bien sûr. Son rapport en braille. Et on peut lire ça.
Madame la directrice, qu'est-ce qui entrave le bon déroulement des enseignements au niveau de l'école des sourds de Zender?
Donc, le grand problème, je vous ai dit que c'est le manque d'infrastructures. Donc, nous n'avons pas assez de salles de classe. Il y a aussi le problème, le manque de formation des enseignants. Il y a la non-prise en charge totale de ces enfants handicapés. Donc, c'est ces trois problèmes qui entravent le bon déroulement.
Pourtant, la loi a dit de prendre en charge les enfants handicapés, en charge leur transport, tout.
Ils sont pris en charge, mais pas à 100%. Certes, il y a l'État qui nous donne l'AD, mais seulement l'AD nous vient toujours en retard et en quantité insuffisante aussi.
Je continue avec vous. Comment améliorer donc la prise en charge des enfants handicapés dans le cadre scolaire?
Donc, pour améliorer l'éducation de ces enfants handicapés.
La prise en charge.
Oui. L'État doit fournir un grand effort. Certes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous donne l'AD, mais ça vient toujours en retard et c'est encore insuffisant. Il y a aussi les ONG et nous profitons ici pour remercier vraiment Save the Children qui apporte un grand soutien pour ces enfants. Il y a la fédération aussi, il y a l'ONG ASSO EPT Mungani ADD Faceli. Donc pas mal des ONG qui apportent leur soutien. Et je lance aussi un appel aux bonnes volontés d'apporter leur soutien à ces pauvres enfants.
C'est ça.
Ensuite, les parents aussi doivent aussi contribuer pour l'éducation.
D'accord. Nous allons revenir aux appels, aux perspectives. Monsieur Liman Tingri, le reclassement professionnel, l'emploi, l'intégration sociale des personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales constitue une obligation nationale. Est-ce que vous pensez que les personnes handicapées jouissent de ces privilèges après leur scolarité?
Bon, il existe, je ne sais pas, donc le quota de recrutement là, donc vraiment je ne sais pas s'il est totalement donc respecté.
C'était 5%.
Oui, les 5% là, donc je ne sais pas vraiment si c'est respecté, c'est ça que je dis. Mais je sais quand même que donc au niveau de l'enseignement secondaire, donc il y a un certain nombre de personnes handicapées donc qui enseignent. Mais vraiment, je ne sais pas si cela couvre donc le quota. Je n'ai pas de chiffres donc statistiques sur cela. Mais je sais qu'ils sont donc intégrés.
Un jour, j'ai vu au niveau de la direction de l'éducation nationale, une personne handicapée, locomotrice, qui était venue avec son dossier. On a refusé de prendre son dossier, comme quoi elle ne peut pas se tenir debout et elle ne peut pas enseigner. Est-ce que vous pensez que c'est une violation de la loi, ce refus-là?
Oui, je pense bien que ça, c'est une violation. Et c'est certainement donc que ce personnel donc chargé de recevoir.
Je me dis que si elle amène son dossier, c'est parce qu'elle se sent capable.
Tout à fait. Et maintenant, ce qu'il faut faire là, c'est évidemment donc de prendre le dossier, étudier. En cas de besoin, faire passer un test donc à cette personne pour voir si on peut donc l'insérer quelque part ou autre. Mais il y a une obligation donc de prendre son dossier. Et déjà, ça, c'est un peu, je pense, la discrimination. Juger la personne directement là, à cause donc de sa situation physique, naturelle ou autre, donc là vraiment je pense que c'est une violation donc de la loi.
Elle est retournée à l'arme, la jeune fille.
Tout à fait, donc c'est ça justement donc la discrimination. Donc il faut prendre donc le dossier et en cas de nécessité, je l'ai dit, donc il faut faire donc des tests pour voir si cette personne là peut valablement faire le travail donc désiré ou autre. Sinon ça c'est sûr que c'est une violation de la loi.
En tout cas, ça m'a fort étonnée. Puisque si vous partez à l'école Niger Amitié, là où on prend en charge les enfants handicapés locomoteurs, il y a bel et bien des enseignants locomoteurs aussi, handicapés locomoteurs, qui dispensent leur cours là-bas. Donc, peut-être...
En tout cas, elle était sur deux béquilles et c'était devant moi. On a refusé de prendre et elle est retournée en larmes.
Pourtant, il y a des
sinon, c'est pour un test. Elle est venue amener juste son dossier pour composer le test comme tout le monde.
Donc, là, je ne sais pas. Mais pourtant, il y a bel et bien des enseignants locomoteurs aussi qui dispensent leurs cours.
Madame Catherine, est-ce que les élèves, vos enfants, est-ce qu'ils ont des difficultés après l'obtention de leur diplôme à choisir l'école professionnelle de leur choix?
Le problème en est qu'ici à Zender, c'est l'école normale seulement. Quand ils font le BPC, maintenant le bac, ils vont seulement à l'école normale. Toutes les autres écoles se trouvent à Niamey. Les autres écoles au-delà du BPC ou du bac se trouvent à Niamey. Et vous savez, les enfants là, ce sont des enfants d'une famille démunie. Des fois, ils n'ont même pas de connaissances à Niamey, là où amener son enfant pour étudier, pour continuer ses études. Donc, c'est là le problème. Dès qu'ils finissent, c'est l'école normale. C'est l'école normale. Toutes les écoles professionnelles ou les écoles au-delà du bac ou du BPC se trouvent à Niamey. C'est ça notre problème.
C'est un choix limité.
Oui.
Ils ne font pas l'université de Zander, il n'y a pas de...
Non, pour le moment, il n'y a pas.
Il n'y a pas d'équipement nécessaire pour
c'est
faire.
C'est ça, c'est le matériel qui manque.
Alors, qu'est-ce qui entrave, madame, le bon déroulement des enseignements au niveau du CS Barman Mustapha?
Ce sont des matériels. Les matériels qu'on a, c'est avec ça qu'on travaille le plus là qu'on a. C'est avec ça qu'on puisse faire le travail.
Ça vous arrive d'avoir des ruptures de papier?
Bien sûr.
Et comment on fait?
Donc, des fois, les élèves achètent. Ou bien, des fois, c'est nous-mêmes qui achètons les papiers là.
Et on vend ça à Zander?
On vend ça au Nigeria. On lance des commandes au Nigeria pour qu'on nous amène ça à Zender.
Et avant,
ou à Niamey.
Et avant que ça ne vienne...
Ça prend du temps.
Ça prend du temps. Et les élèves, en cas de devoir, ils sont bloqués.
Oui.
Maintenant, que fait l'enseignant dans ce cas? Est-ce qu'il leur accorde des faveurs pour dire que ceux-là, ce n'est pas de leur vouloir s'ils ont raté?
L'enseignant est obligé. Puisque c'est ça le travail. S'il n'y a pas de papier, tout le travail est bloqué.
Vous, est-ce que vous intervenez pour en faveur des enfants?
Si, si.
Dima Tingri, dernière question, où on va faire un dernier tour de table pour voir comment mieux prendre en charge l'éducation des enfants handicapés et les valoriser dans le domaine de la recherche d'emploi. Aujourd'hui, vous dites bien qu'il y a une discrimination. C'est vrai, on reconnaît qu'il y a une discrimination. Alors, comment aujourd'hui mieux prendre en charge l'éducation, mais aussi la valorisation de ces personnes pour l'emploi ou face à l'emploi?
Donc, la première chose à faire là, c'est vraiment la sensibilisation générale. Une sensibilisation à l'endroit donc des parents et aussi de la communauté, donc de manière générale. Cette sensibilisation pour les parents, c'est que ils acceptent vraiment donc d'inscrire donc ces enfants donc dans les écoles. C'est vraiment au personnel de pouvoir donc les prendre donc en charge, les guider pour qu'ils réussissent, et ça c'est tout à fait possible et ça se fait, je le dis donc de manière générale un peu partout. Donc c'est chercher donc à les former, à les rééduquer pour qu'ils puissent travailler aisément. Donc c'est ça le but, c'est non seulement l'éducation mais c'est la rééducation et la formation. Donc il faut vraiment que les parents sachent que les enfants peuvent suivre, réussir donc à l'école. Et maintenant, au-delà de ça, la société de manière générale, il faut également donc la sensibiliser. Et il faut que ces personnes donc soient respectées, jugées donc égales aux autres personnes. Et c'est des personnes qui peuvent tout à fait travailler. Et on le voit dans différents secteurs, il y a différents métiers. Et ces gens-là, donc, ils travaillent. Si vous prenez par exemple les sous donc de manière générale, même ceux qui n'ont pas été à l'école là, de manière générale, donc moi je vois en ville là, ils participent à beaucoup donc de travaux. C'est pas des personnes qui cherchent à quémander ou autre, comme chez nous on voit donc par exemple si vous prenez donc les talibés de manière générale, c'est des gens vraiment donc bien portants là que les parents placent chez certains marabouts. Et là, tout ce qu'ils font là, c'est vous voyez, mendier. Et mendier, même, ce n'est pas le repas qu'ils cherchent, c'est plutôt l'argent. Et même, je pense que certains donc les exploitent. On les oblige donc à amener une telle somme ou autre là. Alors que si vous prenez donc les sourds là, donc moi je vois dans beaucoup d'activités, ils viennent pour faire donc le gardiennage et autres là. C'est des gens vraiment qui veulent travailler et gagner donc de l'argent à la sueur donc de leur front. Donc vous voyez donc là, il suffit vraiment, je pense donc de d'intensifier donc la sensibilisation au niveau de la communauté pour que ces personnes handicapées là soit comprise, acceptée comme, comme telle, et que c'est des gens qui travaillent, qui peuvent tout à fait travailler. Maintenant, au-delà, il faut aussi, donc, on l'a dit, donc, les moyens pour vraiment donc, qu'on puisse leur donner un enseignement donc, convenable. Là, il faut vraiment donc, les moyens. Et les moyens, ce n'est pas seulement donc, l'État. Il faut bien entendu donc un certain nombre donc de structures d'entraide et autres de solidarité là, par exemple les ONG, les associations, même des personnes physiques ou morales là, et s'il y a la sensibilisation là, elles peuvent apporter donc les moyens. Donc c'est par cela là qu'on peut donc vraiment progresser, améliorer l'enseignement et leur réussite.
C'est vrai, ce que vous avez dit, on note vraiment une meilleure organisation des sourds ici à Zender qui s'organise. Ils ont même une association des sourds qui font beaucoup de travaux d'intérêt public. Et malheureusement, ce qui n'est pas le cas du côté des aveugles qui prennent leur handicap comme étant vraiment une fatalité. Et ils se mettent à des activités non la mendicité et autres. Donc là, effectivement, peut-être il faut que les aveugles aussi s'organisent mieux pour qu'eux aussi ils contribuent au développement de la société. Madame Catherine, la dernière question pour vous aussi. Comment mieux prendre en charge l'éducation des enfants handicapés et les valoriser dans le domaine de la recherche de l'emploi?
C'est les intégrer et les prendre au même pied d'égalité que les autres, puisque au-dessus, ils sont mieux, ils sont bons. Seulement, c'est le matériel qui les bloque.
À diplôme égal aujourd'hui, l'enfant handicapé est défavorisé.
C'est ça.
Malheureusement.
Oui.
Madame, comment mieux prendre en charge l'éducation des enfants handicapés et les valoriser dans le domaine de la recherche d'emploi?
Donc, comme l'a dit le planificateur, c'est le manque de la sensibilisation. Donc, ici, on doit nécessairement sensibiliser la communauté. Qu'elle sache que les personnes handicapées ont droit à l'intégration socio-professionnelle, comme tout un chacun. Et de les prendre en compte, donc, pour respecter les différentes loi et arrêté, notamment au recrutement à la fonction publique. Ils ont un quota de 5%, malheureusement, qui est toujours négligé.
D'accord. Donc, merci, madame.
C'est ici que prend fin cette émission qui a pour thème l'éducation des enfants handicapés visuels et auditifs à Zender, défis et perspectives. Et nous retenons que l'éducation spécialisée qui concerne les personnes handicapées est totalement prise en charge par l'État selon la LOSEN, la loi donc d'orientation sur le système éducatif nigérien. On note une grande évolution dans l'inscription des enfants handicapés. De 8 élèves à l'ouverture de l'école des sourds de Zender, on est passé à 141 de nos jours. Et au niveau de l'école de sourds de Sabongari, de 4 élèves, on est passé aujourd'hui à 78 élèves. Il y a cependant un manque de sensibilisation des parents qui refusent encore d'inscrire les enfants handicapés. Il y a seulement 4 écoles spécialisées au Niger pour prendre en charge les besoins spécifiques des enfants. On note un manque d'infrastructures, un manque de formation des enseignants et la non-prise des enfants handicapés. Malgré l'effort consenti par l'État, d'autres efforts doivent être consentis pour la prise en charge des enfants handicapés.
Il faut une sensibilisation générale pour que les parents acceptent d'inscrire les enfants à l'école. Il faut aussi mettre les moyens nécessaires pour mieux prendre en charge l'éducation. Les personnes handicapées ont des droits, notamment celui à l'éducation ou à l'intégration. Malheureusement, on vient de constater que dans les faits, plusieurs insuffisances persistent, tant du côté matériel que de celui de l'égalité des chances après les études, ce qui peut constituer une entrave au bon fonctionnement de ces établissements qui auraient pu avoir plus d'enfants. Nous remercions ici nos invités présents dans le studio.
Monsieur Liman Tingiri Mustapha, planificateur de l'éducation à la retraite. Madame Fassouma Abdou, directrice de l'école des sourds de Sender, et Madame Eti Kokon Catherine, responsable salle de transcription Braille Sender.
Nous avons invité aussi Monsieur Habou Mokela, enseignant des élèves handicapés du secondaire, qui est au niveau du CS Barma Mustapha. Nous apprend au dernier moment qu'il était empêché. Ce n'est qu'une partie remise. Nous remercions les auditeurs qui nous ont suivis tout au long de l'émission.
Je suis Mustapha Mamansani, correspondant du studio Kalangou à Zender. Merci et au revoir.